eh bien, nous avons 10 minutes pour les discussions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Tu as une question? Non. Donc, on commence ici, puis... Mais il nous faut le micro. Il est là. C'était lui.
On avait j'ai trois questions. La première est à notre ami de chat, Abdou. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'éducation élevée dans votre pays, et est-ce qu'il y a des échanges entre votre pays et d'autres pays sur ce domaine? Une autre question à Madame à Corinne, si je peux continuer, est-ce que ça a permis? Il y a un grand problème chez nous en néerlandais, mais aussi dans les autres, beaucoup d'autres langues européennes, que les chercheurs ne peuvent pas écrire une article sur leur recherche dans leur langue. C'est un grand problème dans beaucoup de pays, même un peu en allemand. Alors, j'ai suggéré déjà à AET qu'il faut faire une estimation des efforts qui est nécessaire pour alors, compléter ça, comment dire en français, de développer du terminologie pour tous ces domaines, c'est commander fort. Suggère qu'on fait quelque chose peut-être dans le champ de réalité. Une dernière question, remarque à Madame Abad. In English, I always thought that CLIL was a bad idea. As far as I know, this is the origin of CLIL is in the European schools. My children went to the European schools. It is an idea of 40 years ago, which was said that you can have geography and history and economics in another language, in your second language. So my children did it in English. In the beginning, they didn't know English very well, so they didn't understand the lessons in geography and history and so on. So they because of that, they knew very little about what they had to learn. Apart from that, they learned a lot of history and geography of Great Britain, because the textbooks were about the situation in Great Britain and the history of Great Britain and so on and so on. So what sense does it make? Why, if you have already several courses in English, or if you say French is a second language, why don't you make the teaching in that all the other languages so that they can learn, apart from the language themselves, also other aspects, you know, other cultural aspects and so on? Thank you.
Bon, on va répondre dans l'ordre. Alors, répondez brièvement, hein. Donc, Abdelaziz, vas-y, réponds.
Très rapidement, mon ami hollandais entend par éducation élevée ce qu'on appelle en français l'enseignement supérieur. C'est ça. You mean higher education, I think, no? Yeah. Donc, c'est vrai, il y a une coopération à plusieurs niveaux. Il y a une coopération dans le cadre de ce qu'on appelle IUF, qui est l'un des partenaires de l'organisation de ces assises, qui est l'agence universitaire francophone. Il y a également des partenariats que j'appelle intra-africains, c'est-à-dire des partenariats entre les universités tchadiennes et les universités africaines ou d'autres universités africaines. Il y a également le partenariat dans le cadre de la recherche arabophone. Donc on a pas mal de départements d'arabes et d'universités arabophones au Tchad. Et ces derniers sont liés par des protocoles d'accord à d'autres universités du monde arabe. C'est ça. La porte est ouverte aux universités hollandaises si elles veulent signer des accords de partenariat avec les universités tchadiennes. Je ne parle pas au nom du gouvernement tchadien.
Merci Abdelaziz. Corinne.
Alors, j'ai bien l'impression qu'il ne s'agit pas du manque de terminologie dans le problème que vous avez énoncé parce qu'il s'agit d'une certaine attitude par rapport attitude d'une part des instances de décision, d'autre part des revues qui sont très cotées au niveau international et même des universités et des académies de tous les pays du monde. Donc ça passe par l'anglais. Donc pour les chercheurs de langues différentes, ce n'est pas donc la terminologie qui leur manquerait pour écrire dans leur propre langue, mais c'est le niveau de l'évaluation au moment où ils écrivent dans leur langue ou bien en anglais. Je regrette de vous le dire, mais je crois qu'on est à contre-courant, même si je défends et nous défendons les langues néo-latines, nous défendons la langue de chacun et nous parlons de plurilinguisme.
Je crois qu'elle a raison, c'est-à-dire le néerlandais a tous les mots qu'il faut. Simplement, les Hollandais ne l'utilisent plus dans la communication scientifique. Ils ont complètement anglicisé leurs universités et la recherche. Donc, du coup, la terminologie se perd. Donc, c'est pareil en Suède. Pour l'instant, en France, on tient encore parce que le français est encore très utilisé dans les sciences. En tous les cas, déjà les sciences humaines. Mais dans les Pays-Bas, et c'est encore pire en Suède, les gens oublient la terminologie locale. Et ça, c'est une catastrophe, quoi, je trouve. Hein. Emma?
Non, I want to underline that CLIL is not a methodology to teach language, just languages. I mean, the focus is not on the key terms of a certain subject, for example, geography in my case, but the intercultural exchange, the culture is one of the core of the key aspects of CLIL. So during the lessons in CLIL, you can use also the code switching, so you use lots of languages, not just the target language. And the most important thing is a cultural aspect, because all the students are involved in the lesson from their perspective, and they are asked to participate to the lessons with their own experience in the real life. All the tasks are really connected to the reality. It's a very action-oriented approach, CLIL. That's why maybe it's not something new for lots of people, but in Italy that was a very traditional methodology to teach. CLIL was a sort of Copernican revolution. And so for intercultural and plurilingual aims, I think that CLIL fits very well because it's based on diversity.
Manuel, et après vous, qui était le premier là? Le micro est là.
Je parle.
Attends, non, il y en a deux autres avant vous.
Merci. Je voudrais revenir un peu sur l'intervention de notre collègue Abdelaziz. À vous écouter tout à l'heure, on a l'impression que le plurilinguisme tchadien, à votre sens, devrait se limiter aux langues européennes et au chinois. Qu'en est-il des langues locales tchadiennes exactement? Voilà. Et puis je voudrais aussi apporter quelques clarifications en guise d'information pour dire que la gestion du plurilinguisme dans le contexte africain au fait ne fait pas trop la préoccupation des Africains en gros, des décideurs politiques surtout, parce que ils sont préoccupés par d'autres choses, par des conflits politiques, par des crises économiques, des crises sociales. Et quand on parle de la gestion du plurilinguisme, tous ces débats, en fait, pour eux, c'est des débats de second plan. Et quelquefois, les gens ils vont jusqu'à vous faire croire que cela se situe dans le, permettez-moi l'expression, dans le loisir des Européens qui ont atteint un niveau de développement et qui pensent aux langues maintenant. Et donc, c'est des questions assez délicates sur lesquelles on pourrait toujours revenir. Je finis en disant, en fait, que Le problème politique ou politico-économique tchadien et africain en général, c'est un problème qui, si on peut se le permettre, qui est perpétré, orchestré, soutenu même par les grandes puissances, qui finalement, ce qui les grandes puissances, qui finalement ne laissent pas la chance à ces pays-là de se développer. Le Tchad, par exemple, c'est l'exemple le plus parlant, où malgré toute sa richesse, si vous voulez, minière, etc., on constate que ce pays reste pauvre comme d'autres pays africains. Ah oui, voilà. Donc, en réalité, c'est...
Kofi, laisse-lui temps de répondre.
Voilà, donc, je m'arrête là. Merci.
Ok. Alors, rapidement, hein, Abdelaziz. Hein. Donc, deux questions. Hein. Pourquoi pas les langues africaines dans ta,
oui, c'est ça.
Dans ta politique
très rapidement.
Et la soumission du Tchad aux grandes puissances.
Je suis toujours pour la promotion des langues africaines. Et d'ailleurs, c'est l'un des domaines, disons, de prédilection de mon département, qui est le département des langues africaines et linguistiques à l'Université de Yaoundé 1. Mais c'est compte tenu du thème, de la thématique de ma communication. Ce qui est pour se développer, quel genre de plurilinguisme, le Tchad a besoin. Donc il faut faire le lien entre développement durable et plurilinguisme. Et qui dit développement durable, je suppose que tu connais les ODD qui sont les objectifs de développement durable, quoi, pauvreté, santé, éducation, etc. Et je pense que pour se développer, pour orienter la question langagière du Tchad vers son développement durable, je pense qu'il faut donner la priorité aux langues à grande potentialité économique, scientifique et consorts. C'est ça. Mais cela ne veut pas dire ne pas développer les langues locales. Ça, donc, bon. On peut faire l'idée à la fois un plurilinguisme orienté vers okay. le développement durable du Tchad et la promotion des langues locales. Et je parlais également d'une langue africaine à grande potentialité économique, qui est le Hausa, que tu connais. Et les grandes puissances, je pense que vraiment, j'étais toujours la responsabilité du retard de l'Afrique sur le dos des grandes puissances. Je pense que ce n'est pas vraiment un bon raisonnement. Par exemple, sinon comment expliquer l'inégalité en termes de développement entre les pays africains? Nous sommes en grande partie responsables. Nos dirigeants sont en grande partie responsables. L'Afrique peut être exploitée, mais pourquoi est-elle exploitée? Parce qu'elle se laisse faire. Donc je pense que vraiment la responsabilité est en quelque sorte partagée entre l'élite dirigeante de l'Afrique et les grandes puissances. Vraiment, je ne pense pas vraiment que c'est bon de dire que non, un tel ne nous pas développer, notre retard est dû à l'exploitation de telles puissances et de telles puissances. On a compris
ce que tu veux dire. Bon, en fait, l'Afrique, ce que tu veux dire, c'est que l'Afrique est largement responsable des malheurs qui lui arrivent.
Non, elle est en grande partie responsable.
Je pense que c'est un débat qu'on ne va pas régler aujourd'hui. Je propose qu'on en discute par la suite. Sinon, on sera là à minuit, voire demain matin à midi. Donc, Manuel.
Oui, just one precision about CLIL. I think there's a lot of misunderstandings on this topic of CLIL. Because I'm not sure that I understood you correctly. You teach geography in English. But CLIL is not teaching a discipline in another language. CLIL is content learning, integrated learning. That means
you teach. Près du micro.
It means that you teach geography and English at the same time, and you assess both at the same time.
Yes, both.
This is not because in some schools and universities, people just teach one discipline in English, and they're selling it as making CLIL. And I think CLIL is clearly a way to spread the English language, because we don't have examples. Well, a lot of. We have some examples in Italy, is the best case, with CLIL in French. Near Milan, for example, a lot of liceo linguistico, where people teach CLIL with French and history and math and so on. But CLIL is a very, very tricky question all around Europe.
Yes, Okay, yes, usually content prevail on language because CLEAL is a content-driven, content-led methodology. Anyway, yes, you teach both language and content, but we are subject teacher. We are subject teacher, so we don't have to be perfectly in grammar. We are not, of course, native language teachers. So it's important the fluency. I mean, if the grammar is not perfect, such as in my case, the most important is that we know the subject because the content is the king. The language came after, and so in Italy, it's not possible to teach CLEAL for English. Not because there is a long debate on this. If it's better that CLEAL is taught by English teachers, language teachers, or by subject teachers. But I think there is no question about, because we have studied at university to teach our subject. Yeah, sorry. So this is a very big debate in Italy about this, if it's more important, the content. Like, anyway, in my school, that is a Cambridge Liceo, Cambridge High School, because we follow the University of Cambridge curricula, it's a very hard CLEAL. It's not a soft CLEAL. This means that the most of the lesson, most part of the lesson is in English, because if you use the soft CLEAL, so the language is prevalent on the content. But if you use hard CLEAL, means that the content is more important than the language.
Just pay attention to one precision. Is it clearly University of Cambridge or one multinational called Cambridge? It's not the University of Cambridge. You have to pay attention to this. It's a selling way.
Okay, I suggest you discuss it over a cup of coffee. Yes. Is there another question? Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est bon? Bon, moi, j'aurais une question à mademoiselle là-bas. Est-ce que le latin, vous considérez que même pour les Français, c'est un emprunt? En français, on utilise le latin, des expressions latines, c'est très fréquent. Et donc, on ne s'est pas ressenti comme étant un emprunt, comme si on disait, par exemple, le process ou des choses comme ça.
Alors, du point de vue de la théorie de la pertinence, je pense que, qu'une expression latine attire l'attention du...
Micro, ici, là. Parlez dans le micro.
Alors, du point de...
Parler au public, et moi je...
Bien. Je pense que du point de vue de la théorie de la pertinence, l'emploi d'une expression latine... L'emploi d'une expression latine soit ressenti par le public qui écoute le message comme quand même quelque chose de plutôt insolite, disons.
On emploie fréquemment, je parle aux francophones. On emploie fréquemment des expressions latines. Est-ce qu'on a le sentiment que ce sont des mots étrangers quand on dit a posteriori, a priori, ad libidum, etc., etc. Je ne sais pas. Je n'ai pas le sentiment qu'on considère comme étant étranger. On considère que c'est...
C'est du patrimoine du français.
Bah, je crois qu'on pense ça.
D'accord, mais quand même, ils ne sont pas très fréquents.
De latine, bien sûr. L'activité, oui, mais bon, c'est intégré.
D'accord.
Ouais.
Non, c'est évident que la compréhension est bien sûr plus haute par rapport aux expressions anglaises. Mais je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose d'insolite.
Peut-être, oui. Dernière question, Kofi. Oui, d'accord, oui, tu as raison. Donc, c'est une bonne question. À partir de quand est-ce qu'on considère qu'un mot est intégré dans une langue? Alors là, effectivement, si on enlevait tous les mots étrangers de la langue française, on ne pourrait plus parler. Hein. Il n'y aurait plus d'orange, pas de café, pas de thé, pas de pantalon, etc., etc. On ne pourrait plus parler de rien. Il n'y aurait pas de fauteuil, il n'y aurait rien, quoi. Il n'y aurait pas de mannequin, ça c'est néerlandais. Il n'y aurait pas de boulevard, c'est néerlandais, etc. Donc on ne s'en sortirait pas si on enlevait tous ces mots. Donc il faut admettre qu'à un moment donné, les mots sont dans la langue. Hein. Paquebot, c'est anglais, etc. Bon. Redingote, à part c'est quand même football, c'est français, c'est clair, comme dans toutes les langues. Et donc le latin, il a un usage qui est séculaire, c'est-à-dire il remonte à au moins Montaigne, voire même avant. Et, voilà, bon, on peut discuter longtemps, hein, mais merci pour votre présentation qui était intéressante, d'après ce que j'ai compris. Je propose qu'on arrête là, et s'il y a des discussions, eh bien, on peut encore les faire devant une tasse de café. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Christian a quelque chose à nous dire ?
Ouais, bah, tout simplement, c'est qu'on reprend dans 5 minutes.
Hein. En quoi ?
On reprend dans 5 minutes.
On reprend dans 5 minutes ? Bon, ben bah, voilà.
Voilà. Et, hein, c'est, donc... Célio nous donnera les conclusions, tout ce qu'il a retenu depuis nos travaux depuis hier matin. Voilà. Donc on a 5 minutes de récréation et pas beaucoup plus. Et je suis absolument navré de vous le dire, de voir cette cruauté, mais c'est comme ça.
Oui,
voilà. Non, on n'a pas honnêtement, on n'a pas d'autre solution. Hein. Voilà.
Non, voilà. Christian, mais on prendra des taxis. Donc ça fera moins de temps jusqu'au palais. On prendra des taxis.
Pour alors, y oui. Corinna me précise, attire mon attention sur le fait que pour nous rendre au palais Elisabetta, nous prendrons des taxis. Hein, parce qu'il semblerait que le temps est légèrement changé. Hein, et que pour éviter d'arriver complètement trempé, n'est-ce pas, il vaudrait mieux que les taxis viennent nous chercher que l'inverse. Voilà, donc tout à l'heure, on se retrouve, dès qu'on a terminé, on se retrouvera dans le hall, hein, et on partira en taxi. Cinq minutes.